Annie Lamonde, bonjour.
Bonjour, Marianne. Merci pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. On vous joint du côté d'Ottawa, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Il pleut à Montréal, c'est votre cas aussi?
Il y a plus ce matin, mais là, je pense qu'on va avoir du soleil pour le reste de la journée.
Et pour le week-end, je vous le souhaite. Annie, assumer son autorité, faire de la discipline là, à la maison, c'est l'une des difficultés peut-être les plus souvent rencontrées chez les parents. Et pourtant, la discipline, ça a plusieurs bienfaits chez l'enfant.
Bien sûr. Évidemment, ça nous permet de garder une bonne relation avec notre enfant. Hein, on veut leur donner un cadre dans lequel agir. Alors, la discipline va permettre ça, va nous permettre aussi de se sentir en sécurité. Hein, quand on a des bonnes balises, ça lui permet d'être en santé, d'être en sécurité, puis aussi de développer une bonne estime de soi. Alors, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants.
En quoi la discipline et l'estime personnelle est liée? Parce que je trouve ça plutôt intéressant.
Bien, tout dépendant de la façon qu'on va discipliner notre enfant, on peut parfois attaquer son estime de soi. Alors, si on... Malheureusement, vous l'avez mentionné tantôt, hein, des fois, on va vite, on pose pas toujours la mesure de nos gestes et on peut utiliser des mots qui vont être blessants, finalement, si on, tout dépendamment de la façon qu'on va s'adresser à l'enfant. Donc ça pourrait avoir des conséquences sur son estime de soi. La même chose quand on utilise, outre mesure, la punition pour discipliner l'enfant, bien, on lui montre pas nécessairement comment agir, mais tout simplement d'être en réaction à des attentes qui sont pas claires.
Ouais, c'est intéressant, Annie, ça. Il y a aussi quelque chose que l'on oublie souvent, mais faire de la discipline auprès de notre enfant, c'est aussi une façon de transmettre nos valeurs.
Mais définitivement, c'est notre façon de guider leur comportement plutôt que d'imposer l'obéissance.
Mm-hmm.
C'est de l'aider à devenir un adulte qui est plus responsable, généreux.
Mm-hmm. Donc, ça a plein de bienfaits. On se parle notamment aujourd'hui, Annie, parce que la Fondation, oui, de psychologie du Canada a émis un fascicule qui s'appelle « Des méthodes de discipline positive pour vous et votre enfant ». Et c'est de ça qu'on avait envie de parler aujourd'hui, de dire que la discipline, ça peut être positif. On voulait faire la différence entre une discipline qui est positive et plus négative. Quels paramètres on pourrait émettre?
C'est une bonne question. Je pense que la distinction à faire, c'est vraiment une discipline qui est positive, elle va miser sur, premièrement, les bons comportements de l'enfant. On va commencer par vouloir vraiment valoriser les choses qu'on voit, les comportements concrets qu'on croit qu'ils sont, qu'on veut valoriser, qui font partie de nos valeurs, comme tu as mentionné tantôt. Tandis qu'une discipline qui est plus négative ou qui peut avoir des impacts négatifs, ça va être plutôt axé vers les punitions, les retraites de privilèges. Puis, comme on a mentionné, ça ne permet pas nécessairement d'apprendre c'est quoi les bons comportements qu'on peut faire à la place. On va aussi utiliser beaucoup les conséquences naturelles, les conséquences logiques. On va aussi permettre à l'enfant de tirer ses propres leçons de la vie de tous les jours, en s'assurant qu'il peut le faire en toute sécurité.
Oui. Et ça, c'est intéressant. C'est dans le fascicule également, les conséquences logiques, les conséquences naturelles. D'abord, c'est quoi ça, Annie?
Mais conséquences naturelles, je vais prendre un exemple.
Oui.
Et bien sûr, la neige n'est plus parmi nous, mais imaginons qu'on est encore en plein hiver, puis que notre enfant s'en va jouer dehors, il fait froid, il y a de la neige au sol, on lui demande de mettre ses tuques, ses mitaines, et il refuse de le faire. On pourrait s'obstiner avec l'enfant, lui dire non, tu dois mettre tes mitaines, ta tuque, on pourrait lui retirer le privilège d'aller dehors.
Oui, le garder à l'intérieur comme punition.
Exactement. Mais là, c'est nous qui va passer un mauvais quart d'heure à essayer de le garder occupé pendant cette période-là. On pourrait décider autrement de dire OK, mais vas-y, tes mitaines, ta tuque sont sur le bord de la porte, tu viendras les chercher quand tu en auras besoin.
Oui.
Puis souvent, l'enfant va revenir chercher ses mitaines, sa tuque, pour pouvoir justement jouer plus longtemps dehors, parce que c'est quand même quelque chose d'agréable.
Oui, à moins 35, un enfant réalise assez rapidement que papa et maman avaient raison.
Oui, le danger, par contre, c'est justement d'aller ajouter « Ben, je te l'avais dit, tu avais juste à m'écouter au début, c'est pas nécessaire, il a déjà vécu sa conséquence. »
Ouais, oui, oui, oui.
Alors, c'est ça.
Alors, c'est ce que l'on appelle une conséquence naturelle.
Oui.
Il y a des conséquences logiques également.
Oui, qui sont un petit peu plus difficiles parfois à mettre en application, parce que il faut vraiment faire le lien entre ce que l'enfant a fait que, ou ce qu'on veut que l'enfant fasse, finalement. Donc, le but des conséquences logiques, c'est vraiment d'apprendre la relation entre le comportement de l'enfant puis les résultats. Ça lui permet aussi de prendre ses responsabilités pour réparer ses torts.
Oui.
Par exemple, on va penser à l'enfant qui s'en va à vélo puis qui revient sans son casque de vélo. Quand il sait très bien qu'à la maison, la règle, c'est on doit porter son casque. Alors, la conséquence logique de ça, ce serait de dire à l'enfant, ben écoute, tu sais que c'est un danger de partir en vélo sans casque. Tu as ignoré les règles de sécurité qu'on a à la maison. Alors, pour le reste de la journée, tu dois marcher.
Ah oui, au lieu de le priver de vélo.
Exactement. On va le priver de vélo pareil, mais
oui,
on a fait le lien entre le
la règle
et le comportement qu'on s'attendait.
Oui. Il pourrait y avoir aussi, Annie, je le disais à titre d'exemple, un enfant qui refuse de se coucher, son heure est habituellement 20 heures, on pourrait dire. Et là, bon, à cause des argumentations et tout, ça mène à 20h30. Donc, de lui dire la nuit suivante, le soir suivant, eh bien, finalement, tu vas te coucher à 19h30. De reculer un petit peu les heures également pour lui signifier notre désaccord, au lieu vraiment de le punir puis de le coucher au retour de l'école, là, tout simplement.
Oui, exactement. Alors, c'est vraiment de faire le lien, comme on a dit, avec le comportement. Il est possible aussi qu'il vive la conséquence naturelle que le lendemain matin, il va être fatigué.
Ah, ben oui.
Puis ça va être difficile pour lui de se rendre à l'école puis de porter attention. Puis tout naturellement, le lendemain, il va respecter l'heure de coucher. Alors, c'est une autre possibilité, mais là, il faut vraiment s'adapter à l'enfant.
Ce que l'on entend souvent, Annie, c'est aussi des parents qui ont ce désir-là d'exercer une discipline, d'émettre des règles claires à la maison, mais qui, à un moment donné, ont l'impression qu'ils sont trop sévères, qu'il y en a trop et qu'ils n'arrivent pas finalement à les faire appliquer.
Oui, mais je pense qu'il faut vraiment s'assurer qu'on n'en a pas trop de règles. C'est quoi le de base qu'on veut avoir à la maison, pas de violence. Donc, quand on a un conflit, on se chicane pas à coups de pied, à coups de bras. On crie pas dans la maison. Puis, les autres situations, bien, c'est vraiment d'y aller avec la situation comme telle qui se passe. Alors, au lieu d'avoir plein de règles, de vraiment limiter, puis d'avoir des attentes qui sont claires par rapport à, par exemple, quand on voit que notre enfant est en train de sauter sur le sofa, mais de tout simplement indiquer clairement, Jean, le sofa, il est fait pour s'asseoir. Alors, tu mets tes fesses, tes cuisses sur le coussin, ou sinon, tu restes pas sur le sofa. Tout simplement.
Comment on peut se fixer des objectifs? Parce que justement, c'est la difficulté pour les parents de dire, OK, qu'est-ce qui devient important pour moi? Peut-être que je donne trop de règles et ça mélange mon enfant. Comment on peut guider le parent de cette façon, Annie?
Bien, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment regarder c'est quoi nos valeurs, c'est quoi les choses qui sont importantes pour nous. On peut, par exemple, si pour nous, ce qui est important, c'est la relation positive avec les amis, on va regarder, ça implique quoi ça? Ça implique être capable de partager, être capable de résoudre des conflits. On ne va pas nécessairement mettre des règles autour de ça, mais quand on intervient, notre cible d'intervention, notre focus va être un peu différent. Si les enfants sont en train de dessiner puis chicanent pour un crayon, ce ne sera pas tout simplement de dire « OK, allez chacun dans votre chambre ». Ça va être « OK, alors comment on pourrait faire pour mieux s'entendre pour que vous puissiez toutes les deux compléter votre dessin avec les crayons que vous avez sur la table.
Mm-hmm. Donc, c'est vraiment aussi d'apprendre à se connaître en tant que parent.
Définitivement. Définitivement, oui.
On ajuste comment nos attentes selon l'âge de notre enfant?
Il y aurait plusieurs façons de le faire. Évidemment, c'est de connaître le développement de l'enfant. Alors, soit par la lecture ou en allant voir d'autres enfants par l'entremise de la garderie ou quelque chose comme ça pour pouvoir voir comment les autres agissent. Ça va nous permettre d'avoir des attentes plus claires pour ajuster nos attentes. Mm-hmm. Mais c'est aussi d'y aller par étapes selon les habiletés de l'enfant. Et que, par exemple, si on veut que notre bambin de 4 ans ramasse sa chambre, peut-être si on lui dit de ramasser toute sa chambre tout seul, ça ne sera pas vraiment juste parce qu'il n'y a pas les habiletés pour le faire encore. Il faut lui montrer étape par étape. Alors, des fois, c'est justement ça aussi de réduire nos attentes en termes d'étapes pour pouvoir faire le suivi avec eux. Puis, c'est de passer du temps avec eux pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils sont capables de faire finalement.
Et de s'assurer que l'on est clair aussi de par notre vocabulaire, de par la simplicité, comment on articule les choses.
Oui, et en montrant l'exemple.
Ah, ben oui.
Évidemment.
Oui, ça, c'est parfois, c'est un petit peu plus ardu, hein?
Oui, des fois, on a des bonnes intentions, on a des attentes, mais faut aussi se regarder soi-même puis de s'assurer qu'on montre ce qu'on veut vraiment que l'enfant fasse.
Oui. Avec le temps, Annie, bon, l'enfant prend de l'âge aussi, on peut lui apprendre l'autodiscipline, hein, n'est-ce pas?
Oui, définitivement. C'est vraiment une bonne manière d'encourager les comportements responsables. Alors, c'est de lier les privilèges ou les activités préférées de l'enfant à l'accomplissement de ses tâches. Alors, par exemple, quand tu vas avoir fini de nettoyer la table, là, tu pourras aller regarder la télévision. Évidemment, ça nous prend, nous aussi, un petit peu d'autocontrôle, puis pas de tout de suite sauter quand on voit que la table n'est pas rangée, nettoyée. C'est de retourner puis de dire, tu dois vraiment nettoyer la table avant de pouvoir regarder la télé, puis de donner le temps à l'enfant d'accomplir sa tâche.
Mm-hmm. Il y a aussi dans la discipline une notion qui m'intéresse beaucoup, Annie, c'est celle de la réparation, c'est-à-dire de s'excuser quand on a fait mal ou quand on a brisé quelque chose, d'apprendre à comment se corriger soi-même nos comportements, parce que des erreurs, on en fait, oui, quand on a 3, 4 ans, 7 ans, on en fait aussi quand on est adulte, et j'imagine que ça peut être bien d'apprendre ça en bas âge.
Oui, puis c'est de l'adapter à l'âge de l'enfant. Par exemple, si un enfant nous demande de peinturer, puis on le laisse avec les pots de peinture et on revient et on s'aperçoit que c'est pas juste le papier qui est peinturé, les murs aussi, mais on va encourager l'enfant de premièrement de serrer les pots, puis ensuite de nettoyer avec nous. Selon l'âge de l'enfant, selon ses habiletés, mais soit qu'on va l'accompagner ou on va le laisser faire seul.
Et bien sûr, malgré tous ces bons conseils, parfois, tout bon parent sent qu'il perdra les pédales, que la situation devient trop tendue. Quels sont vos conseils pour ces parents-là qui, à un moment donné, sortent un peu de leur gond, ou en fait, pour prévenir ça?
Mais premièrement, je dirais, écoutez, la colère, c'est une réaction humaine. Tous les parents ont vécu de la colère à un certain moment donné. C'est sûr qu'on veut s'assurer que nos enfants sont en sécurité. Donc, si on a vraiment des difficultés à gérer notre propre colère, mais j'encouragerais le parent à aller chercher un appui supplémentaire. Mais par ailleurs, si le parent n'a pas tendance à sortir de ses gonds constamment, c'est bon de montrer à l'enfant comment gérer sa colère. Donc, être capable d'identifier c'est quoi nos pouce-boutons à nous ou les situations qui nous créent de la tension. C'est-tu le soir quand on arrive à la maison, qu'on essaie de préparer le souper, puis là, il y a toutes les demandes en même temps. Bien, alors, peut-être que ça nous demanderait de réorganiser un peu le temps du souper. Est-ce que c'est de qu'on reconnaît pas nécessairement c'est quoi nos indices qu'on va exploser, mais de vraiment prendre le temps de regarder c'est quoi les indices que notre volcan à nous, il est en train de mijoter, puis peut-être qu'on a besoin d'un petit peu de temps seul à seul ou pour juste aller prendre une marche puis se calmer avant de continuer les activités de la journée.
Mm-hmm. Et bien sûr, en terminant, Annie, c'est important, je pense, de rappeler que la culpabilité, bon, oui, c'est difficile de passer à côté, je pense, lorsque l'on est parent, mais quand on a envie de faire de la discipline, c'est possible de le faire de façon positive et sans se sentir coupable.
Exactement. Puis je pense que c'est la beauté des outils qui sont discutés dans le petit pamphlet de la Fondation, oui. C'est que justement, ça nous donne des exemples. Puis j'encouragerais les parents d'en choisir un à la fois, oui, pour les mettre en pratique, puis de vraiment regarder quels sont les impacts que ça a autour d'eux, ouais, avec leur enfant. Puis je pense qu'ils vont être heureux de voir les changements.
Oui, je l'ai dans les mains, justement, Annie Lamonde, ce fascicule publié par la Fondation de psychologie du Canada, qui est assez complet. Là, on parle d'une quarantaine de pages. C'est très, très concret, beaucoup d'outils. Et j'avais, tout à l'heure, je le feuilletais, et on parlait des bons comportements. Il faut les souligner aussi, pas juste souligner au gros crayon au rouge les mauvais comportements aux enfants.
Non, puis plus on valorise, plus on encourage les bons comportements, mais plus ils vont, les enfants veulent nous faire plaisir, hein, ils veulent que leurs parents soient heureux aussi, alors ils vont avoir tendance à les reproduire plus souvent.
Pour consulter ce fascicule, vous pouvez aller à fondationpsychologie.org et ça s'intitule « Oui, vous le pouvez, des méthodes de discipline positive pour vous et votre enfant ». Merci, Annie Lamonde, de nous en avoir parlé. Je rappelle, vous êtes psychologue pour le Service canadien en santé mentale pour francophones.
Merci beaucoup, Marianne, et bonne fin de semaine.
Au revoir.
Au revoir.